Laughter!
Bonjour et bienvenue dans le numéro 75 de J'affe ta mère, l'émission sur la famille contemporaine avec Stéphane de Périgueux via l'association Équité Parentale. Aujourd'hui, la troisième et dernière partie de notre entretien privilégié avec Joël Monzi, docteur en neurosciences, où nous verrons aujourd'hui trois points, trois questions. Pourquoi a-t-on autant d'enfants en besoin de soins et d'aide actuellement en Occident ? Puis nous parlerons du Ritalin et de la médicalisation de l'assistance médicale des enfants en Occident. Et nous finirons en envisageant les raisons qui peuvent pousser un enfant à somatiser physiquement ses difficultés intérieures. Voilà. Tout ceci, bien évidemment, après quelques actualités. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
PPL, la suite du retour. Nous tentons donc une nouvelle fois, via la proposition de loi 4557, à instaurer le principe de présomption de résidence alternée pour les enfants de parents séparés. Alors, cette fois-ci, nous avons Frédéric Dumas, Philippe Latombe, Damien Adam, Marie-Noël Battistel, Lionel Cause, Fanette Charvier, Charles de Courson, Loïc Dombreval, Janine Dubier, Agnès Firmin-Lobodo, François-Michel Lambert, Nicole Lepé, Christine Pires-Beaune, Lise Magnier, Jacques Maire, Paul Molac, Valérie Opelt, Bertrand Plancher, Alain Perrea, Maude Petit, Valérie Petit, Jean-Luc Redzer, Lauriane Rossi, Nicole Sanker, Syrah Silla, Laurence Van Senebrock et Jean-Marc Zélusi, député, pour porter cette PPL, donc nous espérons qu'elle sera proposée, celle-ci, qu'elle sera débattue. Eh bien écoutez, moi qui disais il n'y a pas longtemps qu'on n'avait aucune chance, eh bien il nous en reste encore une. Espérons. Je vais d'ailleurs demander l'avis de Monsieur Thierry Berger dès que je le pourrai, afin d'en savoir un petit peu plus sur ce projet.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3, aujourd'hui encore avec Joël Monzé, c'est une chance, on en profite parce que c'est vraiment passionnant et intéressant. Nous avons étudié dans les émissions précédentes l'influence de la culture et de l'environnement sur la petite enfance, la transmission intergénérationnelle des stress et traumatismes via l'ADN. On a ensuite regardé les conséquences du divorce de masse, de la séparation par rapport à l'enfance, le besoin de l'enfant par rapport à ses composantes et ses parents. Aujourd'hui, je voudrais savoir, nous avons une émission, nous étudions la famille contemporaine, la famille d'aujourd'hui qui est assez différente de celle d'auparavant. Pour avoir un peu voyagé, vécu sur plusieurs continents, être revenu en Occident il y a quelques années, quelque chose m'a frappé. Pourquoi a-t-on aujourd'hui autant d'enfants en besoin de soins et d'aide actuellement, en ce que j'appellerais l'Occident, c'est-à-dire Amérique du Nord, Europe? Est-ce que c'est parce qu'avant on ne s'occupait pas d'eux, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont plus besoin qu'avant? Comment ça se fait?
Mais j'aurais envie de dire que notre société est devenue terriblement complexe. Quand Alexandre Dumas a écrit l'histoire de D'Artagnan, il situe D'Artagnan comme un jeune de 16 ans quand il arrive à Paris. Mais dans la vraie histoire, D'Artagnan, selon les indices historiques que l'on a, on sait qu'il était déjà mousquetaire à 14 ans lors d'une bataille entre la France et l'Angleterre à La Rochelle. Donc on peut présumer que quand il a quitté la Gascogne, il devait avoir 12 ans, 13 ans grand maximum. Et la plupart des exploits que l'on connaît de D'Artagnan avant qu'il ne devienne mousquetaire, donc c'est avant ses 14 ans. Donc, quelque part, il y a 300 ans, on était un homme et une femme à 12-13 ans. Si vous vous souvenez du retour de Martin Guerre avec Nathalie Baye et Gérard Depardieu, oui.
J'ai entendu que la puberté était de plus en plus précoce avec le temps et que les hommes, enfin les garçons et les filles devenaient hommes et femmes 1 ou 2 ans plus tôt qu'à 200 ou 300 ans. C'est vrai ?
C'est fort possible à cause des hormones qui sont dans la plupart des animaux qu'on va manger.
Ben donc, regardons un enfant de 12 ans il y a 300 ans, il était biologiquement moins avancé qu'un enfant de 12 ans aujourd'hui, moins pubère, on va
dire. Sur le plan sa sexualité, oui.
Oui, non, mais physiologique, ça va avec la musculature et autres. Pour aller tuer des gens à l'épée, il en faut un petit peu quand même. Hein.
C'est oui, mais c'était normal. Mais c'était normal en même temps qu'à 12, 13 ans. Je venais de citer justement, puis ça touche exactement ce que vous venez de poser comme question par rapport à la puberté. Le retour de Martin Guerre avec Nathalie Baye et Gérard Depardieu. D'accord. Donc, on a un homme qui revient après avoir été un soldat pendant plusieurs années et s'être enfui du village et se fait passer pour le mari de Nathalie Baye. Pourquoi est-ce que cet homme-là avait quitté son village? Tout simplement parce qu'on les avait mariés à 12 et 13 ans. Donc, Nathalie Baye, enfant, on s'entend que c'est le personnage qu'elle joue, d'accord? Elle avait 12 ans quand elle était mariée et Martin Guerre en avait 14. Un an plus tard, elle n'est toujours pas tombée enceinte. Donc, que fait le curé du village? Il l'a fait fouetter. Et Nathalie Baye, enfant, se fait fouetter parce qu'elle n'a pas encore enfanté. Martin Guerre, voyant ça, il s'enfuit pour ne plus que sa conjointe soit fouettée. Parce que l'Église trouvait anormal qu'un an après avoir été mariée, elle n'ait toujours pas enfanté. Donc, socialement, on avait donc à la fin du Moyen-Âge des mariages qui étaient beaucoup plus tôt. Regardez, je veux dire, François II était roi à 14 ans. Combien de rois ont été nommés et avaient un certain nombre. C'était une chose qui était normale.
La biologie est peut-être avancée au jour d'aujourd'hui, mais les fonctionnements sociétaux ont été retardés peut-être, oui.
Parce que notre société est de plus en plus complexe.
Oui, d'accord.
Donc, ma grand-mère est devenue professeure à l'école primaire, titulaire de classe, à 14 ans et demi. Ma mère et ma tante à 16 ans et demi. Et aujourd'hui, il faut 24 ans pour être enseignant à l'école primaire. On a donc rajouté une dizaine d'années d'études pour faire le même travail. On était médecin début du 20e siècle à 20 ans, 18 ans même parfois. La même chose pour les avocats. Donc, notre société est devenue beaucoup plus complexe. Et qui dit complexe, et on le voit à travers la pandémie dans laquelle on est actuellement, qui est un environnement extrêmement complexe parce que la science avance moins vite que les besoins politiques et les besoins sanitaires. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, on voit comment c'est difficile pour les êtres humains de se faire même une idée par rapport à un virus. Virus qui a un degré de dangerosité pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. D'accord? Donc, c'est certain que la complexité fait en sorte que ça crée beaucoup d'insécurité chez les adultes. Si les adultes sont plus insécures, mais ça va faire plus d'environnements difficiles et anxiogènes pour les enfants, donc une plus grande demande de câlins, une plus grande demande d'attention, à un tel point, c'est que, indépendamment de la pandémie, aujourd'hui, les sociologues disent que l'adolescence commence à 10 ans, à cause justement de l'évolution de la biologie où les enfants de 10-11 ans peuvent commencer leur puberté, mais s'arrête à 26 ans. Donc, c'est 16 ans d'adolescence pour être capable de développer les ressources de gestion de nos émotions, les relations, développer une autonomie financière éventuellement pour être capable de prendre sa place à part entière.
On essaye. Sur une arme, les doigts noués, progresser, serrer les poings. Mais nos paumes sont pour aimer. Y'a pas de caresse en fermant les mains. Longue et jointe en une prière, bien ouverte pour acclamer. Dans un point les choses à soustraire, on ne peut rien tendre, les doigts pliés.
Moi, quand j'étais ado et que je me sentais pas bien, on m'envoyait jouer au foot ou faire des tours de stade ou courir dans les bois. Aujourd'hui, on donne du Ritalin. Alors, pour les Européens, qu'est-ce que le Ritalin? Pourquoi c'est autant utilisé en Amérique du Nord? Est-ce que vous en pensez?
Oh, c'est un gros débat. Ça fait 16-17 ans que j'essaie de tirer la sonnette d'alarme en Amérique du Nord, surtout au Québec, dans l'utilisation du Ritalin. Nous, on l'appelle Ritalin au Québec, c'est la Ritaline en France. C'est un médicament que l'on va proposer, en fait, à des enfants qui, soi-disant, ont de la difficulté à se concentrer en classe, partent facilement de la lune, ou qui ont besoin, justement, de bouger, de gigoter et de réguler leurs émotions en étant en mouvement. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Je pense que malheureusement, les compagnies pharmaceutiques ont été très habiles à exploiter la détresse de certains parents.
Ah, chez vous aussi Non, pardon.
Non.
J'ai dit chez vous aussi. Ah, tiens.
Oui, non, mais les pharmaceutiques veulent une autre bien, c'est certain, surtout. C'était évident dans d'autres. Mais c'est certain qu'il y a une exploitation de la détresse humaine et parfois, vous savez, quand moi j'ai un patient, quel que soit son âge, à partir du moment où il a 14 ans et plus, qui parle de suicide, on se pose pas beaucoup de questions de savoir s'il faut ou il faut pas un traitement médical pour éviter un suicide. Je pense que le médicament peut être un outil qu'on peut utiliser, puis je vais le référer en psychiatrie pour que le psychiatre puisse éventuellement lui prescrire un antidépresseur. Dans le cas d'un enfant qui justement a besoin de plus de bouger ou parfois part plus facilement dans la lune, c'est que on se centre trop sur sa performance scolaire ou sur les attentes de l'adulte, que ce soit l'enseignant ou le parent, au lieu de se mettre dans les baskets, dans les chaussures du jeune, dans ce qu'il vit. Et l'enfant qui se désorganise, mais il y a une raison à ça. Dans une précédente émission, je disais à quel point plus on est jeune, plus on est contrôlé par notre biologie, on est conditionné par notre biologie. Mais c'est certain que vous l'avez peut-être déjà vu en voiture, quand vous arrivez à un endroit où il y a un chevreuil, un cerf qui est au bord de la route, d'accord, ou un lapin, le premier réflexe que l'animal va avoir, c'est de figer. Et techniquement, si je rencontre un grizzly dans le fin fond du Canada, je dois figer, je dois faire le mort. C'est la seule manière de m'en sortir vivant. Mais je vous mets au défi de dire « Ah, waouh, quelle expérience fantastique. Mon cœur m'a la J'ai la sueur, je tremble, je pourrais mourir dans les 30 prochaines secondes parce que le grizzly pourrait me dévorer, pas parce qu'il veut me manger, il n'aime pas ça, mais parce que je suis son terrain de chasse. » Donc, la sidération devient un moyen de gérer l'angoisse, mais c'est pas gérable d'un point de vue psychologique. Donc, de partir dans la lune, c'est un moyen d'être déconcentré, c'est un moyen d'échapper à quelque chose qui est insécurisant. Si le cours que j'ai est plate, ben c'est certain que, quelque part, je risque de vouloir m'échapper mentalement de la classe dans laquelle je suis. C'est normal. Mais si on ne regarde pas ce que l'adulte fait avec l'environnement de l'enfant ou l'environnement de la classe, à la maison ou la classe, mais c'est certain qu'on risque de le diagnostiquer comme ayant un trouble psychiatrique, alors que c'est peut-être une réaction normale et naturelle à un environnement problématique. L'autre mode que j'ai pour me défendre, c'est, mettons qu'il y a des vikings qui m'attaquent. J'attaque le viking parce que je me sens assez fort, ou je m'échappe parce que je veux survivre. Donc, j'attaque ou je fuis. Mais l'enfant qui est dans un environnement où il a l'impression qu'il y a un viking qui va lui couper la tête, il réagit physiquement. Il va ressembler à de l'hyperactivité, mais c'est avant tout de l'angoisse qu'elle a. Et ce que je trouve, malheureusement, c'est que tous les tests diagnostiques qui ont été effectués sont bien souvent trop au profit de proposer un diagnostic psychologique et pas d'essayer de comprendre pourquoi l'enfant, pourquoi l'ado réagit de cette manière-là.
Donc en fait, vous, ce que vous dites, c'est que la société s'est énormément complexifiée. Donc elle demande beaucoup plus de ressources aux enfants pour s'y adapter qu'à 200 ou 300 ans. On pouvait partir à 12 ans sur les routes, faire sa vie. Aujourd'hui, c'est devenu absolument inenvisageable. Donc à la suite de ça, les enfants ont plus de difficultés à s'adapter et à grandir, ce qui fait que l'adolescence commence plus tôt, mais finit de manière plus tardive. Que nous avons de l'anxiété, que c'est pour ça qu'en Occident, ils sont tous avec des orthophonistes et autres, et que chez vous, on leur donne du Ritalin. C'est un peu ça, en fait, si je comprends bien, hein, pour résumer.
Oui, puis on sait qu'on a, au Québec, on a 4 fois plus de consommation de Ritalin, de Ritaline, que dans le reste du Canada, par exemple. Et on voit que l'augmentation de la consommation de cette molécule chimique, elle démarre en 5e et 6e année primaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des examens du ministère qui vont venir sanctionner la fin du primaire. Et la peur de ne pas avoir une performance scolaire à la hauteur des attentes des adultes, parfois c'est l'école, parfois c'est les parents, d'accord, fait en sorte que on va encourager la prise de Ritaline à cet âge-là. Et actuellement, au Québec, on est à 15,3% de jeunes qui, à l'âge de 10, 11, 12 ans, sont sous la Ritaline.
Enfin, vous savez, moi j'ai demandé un entretien à la directrice de l'école primaire de ma fille l'an dernier. C'est une école primaire standard avec des enfants. Et elle m'a dit comme ça, nonchalamment, qu'il y avait plus de la moitié des enfants qui avaient un suivi, un appui, qui soient orthophonistes ou psychologues et autres, on est arrivé à des pourcentages qui oscillent entre 30 et 50 suivant les classes. Moi, j'ai trouvé ça énorme. Absolument oui. Énorme, parce que j'ai discuté autour de moi, il y a des endroits à Singapour, à Hong Kong et autres, qui sont des bons endroits éducatifs au niveau scolaire, hein, je ne dis pas socialement, il y a une violence sociale peut-être, mais ils ne sont pas à 30 ou 50% de leurs enfants sous assistance respiratoire. Hein, ça c'est, Donc, j'avais été surpris de ça. J'étais surpris en fait de l'Occident, parce que je pense que la complexité de la société, elle n'est pas qu'occidentale. Mais j'avais été surpris en fait de voir le nombre d'enfants en Occident qui ont besoin de béquilles, qui ont besoin d'appui, et de voir comment on va jusqu'à les médicamenter. Très rapidement, il y a des conséquences à médicamenter les enfants à outrance ?
Mais on sait que quand on donne par exemple des antidépresseurs à un jeune de 14 ans et moins, on démultiplie le risque de suicide durant l'adolescence.
Donc, c'est vachement utile.
Pourquoi ? Ouais, parce que... le médicament, et ça c'était quelque chose auquel on doit faire très attention, parce que une des manières de traiter les enfants qui sont pour le moment en perte de sens et en perte de plaisir de vivre à cause des conséquences de la pandémie, donc les crises, les mesures sanitaires telles qu'elles sont proposées actuellement de manière à protéger les personnes vulnérables, ça fragilise énormément les enfants, et malheureusement un des réflexes que le monde médical peut avoir, c'est de leur donner des antidépresseurs, même parfois à partir de 10 ans, ce qui est un risque majeur.
Antidépresseur qui fait monter le taux de sérotonine et donc qui diminue un petit peu l'anxiété, qui est censé réguler les différences d'humeur. C'est ça, hein, si j'ai bien compris.
Exactement. D'accord. Oui, tout à fait. Dans le terme médical, on parle de l'anxiodépression. C'est une manière de le réguler. Puis, c'est vrai que de nouveau, un adulte qui est sous antidépresseur, qui menace de suicider, il vaut mieux lui donner un antidépresseur, même si ce n'est pas une vraie dépression. Mmh. Mais ça se pose de graves questions par rapport aux enfants. Et c'est la même chose, malheureusement, aussi par rapport à la Ritaline. Pourquoi ? Parce que le cerveau fonctionne un peu comme un muscle. Si vous faites de la musculation, votre corps va fabriquer des fibres musculaires pour vous permettre d'atteindre les objectifs que vous avez, c'est-à-dire d'augmenter votre masse musculaire, mais surtout de soulever des poids, par exemple, ou de courir plus longtemps. La masse musculaire va s'adapter à vos activités. C'est la même chose dans le cerveau. Quand un neurone est bien utilisé, il va développer énormément de connexions avec les neurones avec lesquels il interagit. Et chaque neurone doit faire entre 40 000 et 100 000 connexions. Donc, c'est certain que plus il y a de connexions, plus le neurone est efficace. Mais si on a un neurone qui n'a pas besoin de fonctionner pour faire une fonction particulière, comme se concentrer, parce qu'il y a un médicament qui agit, pourquoi est-ce que le neurone se développerait? D'un point de vue biologique, ça n'a pas de sens.
Bon, le neurone peut
pas se développer, soit même se rétracter.
C'est ce qui me semblait, c'est qu'à force de donner des béquilles et puis des aides extérieures médicamenteux, forcément, on ne crée pas la fonction, on l'assiste.
Exactement, et donc c'est certain que là, l'industrie pharmaceutique se retrouve avec des clients pendant de très longues périodes, et on le voit de nouveau avec les antidépresseurs, là où ça a été le mieux étudié, c'est que normalement, une vraie dépression, on a trois manières de traiter une personne, on lui propose d'avoir un antidépresseur, une vraie dépression, 3 à 12 mois après, c'est guéri. Il fait une psychothérapie, 3 à 12 mois plus tard, il est guéri. Il va marcher 3 fois par semaine, au moins une demi-heure, 3 à 6, 12 mois plus tard, il est guéri. D'accord? Donc, il y a différentes stratégies pour aider cette personne-là, mais 3 à 12 mois plus tard, il est guéri. Mais les gens qui restent 10 ans sur des médicaments antidépresseurs, ça veut juste dire que ce n'est pas une vraie dépression, mais que le médicament, ayant abîmé les zones sur lesquelles il a fonctionné, d'accord, font en sorte que ces gens-là sont obligés d'avoir une thérapie psychotrope pendant de longues périodes pour compenser le fait. Alors, peut-être qu'heureusement, on évite un suicide ou on évite une perte d'emploi, on évite des situations dysfonctionnelles, mais ça a un coût pour l'individu et ça a un coût pour la société.
Quand on ouvre nos mains, on suffit de rien n'y voir rien. Suffit d'une ou deux secondes, à peine un geste, un autre mot. Quand on ouvre nos mains, mécanique simple et facile. Des vénites timides à carpon, des phalanges aux tendons dociles, et tu relâches ou bien tu retiens, et des ongles faits pour griffer, pousse au bout du mauvais côté, celui qui menace ou désigne, de l'autre on livre nos vies dans des lits.
Alors à propos de dysfonctionnement, et puis on conclura là-dessus, hein, jusqu'à quel point un enfant peut-il somatiser physiquement ses difficultés intérieures ? Là, je crois qu'actuellement, avec le Covid notamment, on va lancer le mot, hein, on a énormément de maladies inexpliquées. J'ai rencontré des directeurs de services aux hôpitaux qui me disent que parfois, ils voient des enfants arriver, ils ne comprennent pas, ils tremblent, ils voient flou, ils ne tiennent pas debout, ça siffle, et puis ils font des ponctions lombaires, des tests et tout. Ils ne trouvent absolument pas ce qu'ils ont, ils ne comprennent pas. Visiblement, il y en a un peu plus actuellement qu'auparavant. Avant, je ne sais pas si vous confirmez chez vous, si vous avez aussi ce problème-là, peut-être dans les pédiatries, le cerveau peut aller jusqu'où dans les répercussions physiques quand l'enfant ne se sent pas bien.
Mais ce qui est intéressant, ce que la science nous dit, j'avais commencé à en parler dans une précédente émission quand vous me parliez précédemment, c'est que quand on voit qu'un enfant est violenté, que ce soit de la violence physique, de la violence psychologique ou de la violence sexuelle, il va y avoir des atteintes dans son cerveau. Son cerveau ne se développe pas de manière adéquate. Et on sait que plus longtemps la violence est présente, plus il va y avoir des conséquences neurologiques et son cerveau va avoir une taille beaucoup plus petite. D'accord? Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on est pratiquement tous nos neurones, toutes nos cellules nerveuses sont déjà là, ce qui va faire que le cerveau se développe, c'est les interconnexions que les neurones vont créer après la naissance. D'accord? Donc, un enfant qui grandit dans un environnement optimal développe toutes ses habiletés et développe son cerveau. Un enfant qui grandit dans un environnement violent va avoir maximisé ses ressources défensives, donc les ressources reptiliennes, et pas sa belle intelligence.
Donc, je gagne du temps. Si on veut, la majeure partie des maladies psychosomatiques trouvent leur origine dans l'insécurité, c'est ça ?
Exactement. Et on voit d'ailleurs que chez ces enfants-là, d'accord, devenus adultes, il y a beaucoup plus de maladies chroniques. C'est comme si ça crée un terrain qui fait en sorte que peut-être qu'il y a une fragilité génétique qui a été transmise ou qui a été créée lors de la fécondation, d'accord ? Mais elle va être optimisée, malheureusement, dans le mauvais sens du terme ici, parce qu'il y a un environnement traumatique autour de l'enfant. Donc, des enfants qui, depuis 18 mois, entendent parler continuellement de risque de mourir, que leurs grands-parents pourraient mourir, ont des difficultés à gérer les interrelations à cause des gestes barrières, se font crier dessus éventuellement par les adultes parce qu'ils ont envie d'enlever leur masque ou ils touchent quelqu'un, ou le manque de soins peut-être chez certains enfants parce que l'éducatrice ou la puricultrice n'osera pas.
Et ils ne peuvent plus aller faire le pot à pot avec leurs amis, ils ne peuvent plus aller jouer avec et autres parce qu'ils sont éloignés les uns des autres.
Oui, et à ce niveau-là, malheureusement, les directions de santé publique ont peut-être privilégié une lecture microbiologiste ou une lecture d'infectiologue au mépris de ce que nous, en tant que neuroscientifiques, en tant que psychologues, en tant que pédagogues, en tant que sociologues, on aurait pu apporter. Et j'espère, tant en France qu'ici au Québec et ailleurs aussi, on va induire des discussions collectives parce qu'on est dans une crise qui va rester. L'idée que le vaccin va solutionner tout, malheureusement, la réalité...
Il n'y aura pas de baguette magique, il n'y aura pas de solution simple à court terme.
Exactement.
Là,
donc, à partir de là, il va falloir que les gouvernements élargissent les panels de discussion pour faire en sorte qu'il n'y ait pas que les infectiologues et les microbiologistes qui soient consultés pour diriger nos pays actuellement.
Ah, parce qu'on est en train d'allumer aux enfants, c'est vrai. Monsieur Monzé, merci beaucoup. Je sais que vous êtes très occupé. Moi, j'apprécie beaucoup l'entretien que vous nous avez accordé. Merci pour votre travail. Si vous avez un ouvrage qui sort, des choses à dire, n'hésitez pas. Nous serons très heureux de les relayer. Et puis, écoutez, bonjour à tout le Québec.
Ben, merci à vous, puis bonjour à toute la France.
Merci, merci beaucoup. Quand on ouvre comme un écran, oh, 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 oh.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Jean-Claude.